Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, les deux époux de Cana étaient vraiment bien inspirés d'inviter Jésus et Marie à leurs noces, et ils ne l'ont certainement pas regretté. Jésus récompense toujours ceux qui pensent à lui et qui veulent qu'il préside à tous les événements de leur vie. Combien de grâces sont attirées sur un foyer quand Jésus et Marie sont invités à leurs noces. Mais quelles sont les conditions pour que Jésus soit vraiment l'invité d'honneur à vos noces? C'est d'abord suivre la volonté de Dieu en ce qui concerne notre état de vie, un choix judicieux d'un époux, avoir une intention droite et pure, et puis quatrièmement, être en état de grâce. Donc d'abord, première condition, suivre la volonté de Dieu en ce qui concerne notre état de vie. Dieu veut le salut de tous, mais dans des conditions et des rôles différents. Il appelle chacun à un état de vie qui lui correspond. Et c'est dans cet état de vie-là qu'il a préparé les grâces propres pour aider chacun à se sanctifier et à se sauver. Ne pas être dans l'état de vie que Dieu a voulu pour nous, c'est nous exposer à être privés des grâces de Dieu, à être malheureux et à mettre en danger notre salut. L'état de virginité, la virginité soit dans la vie religieuse, soit dans le célibat dans le monde voulu pour se consacrer aux bonnes œuvres, cette virginité est en soi plus parfait que le mariage. Mais le mariage aussi est bon et même saint. Cependant, il est plein de dangers et chargé de lourdes obligations. Le mariage exige donc de grandes grâces que Dieu ne donne qu'à ceux qui y sont destinés. D'où l'importance de bien étudier sa vocation et de bien connaître la volonté de Dieu. Parents, ne violentez jamais vos enfants à cet égard. Et jeunes, ne vous engagez pas à la légère, considérez mûrement le choix qui est devant vous. Mais comment connaître la volonté de Dieu? C'est évidemment d'abord par la prière. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner une réponse sûre. Et Dieu nous parle dans la prière. Mais c'est aussi l'étude, parce que Dieu ne néglige pas les causes secondes et il veut que nous fassions un effort pour comprendre sa volonté. Donc il faut étudier nous-mêmes, bien se connaître, nos inclinations, nos capacités. Et il faut aussi étudier le mariage, la nature du mariage, les obligations qu'il comporte, et puis savoir ce que c'est que la vie religieuse. Et enfin, il faut demander conseil à ses parents, demander conseil à un confesseur éclairé et qui nous connaît, soit dit en passant. Pour avoir un confesseur qui nous connaît, il faut avoir un confesseur régulier. Donc voilà pour suivre la volonté de Dieu en ce qui concerne notre état de vie. Deuxièmement, c'est faire un choix judicieux d'un époux. Si vous croyez que Dieu vous a fait pour le mariage, demandez-lui de vous montrer la personne qui vous a destiné. Et pour cela aussi, il faut prier d'abord. Suivons l'exemple d'Eliezer, ce serviteur qu'Abraham a envoyé chercher une épouse pour son fils Isaac, qui a demandé à Dieu de lui faire un signe pour connaître l'épouse qu'il voulait pour Isaac, et il a été exaucé sur le champ. Il a demandé que ce soit la jeune fille qui lui offrirait à boire pour lui et ses chameaux, et puis tout de suite, Rebecca est sortie de la ville et elle lui a offert à boire. Ou bien comme Sarah, la fille de Raguel dans le livre de Tobie, sa belle prière avant le mariage et vaut la peine en fait d'être citée, au moins en partie. Elle disait « Vers vous, Seigneur, je tourne mon visage. Vers vous, j'élève mes yeux. Vous savez, Seigneur, que j'ai conservé mon âme pure de toute concupiscence. Jamais je n'ai fréquenté les jeux folâtres et je n'ai eu aucun commerce avec les hommes de conduite légère. C'est dans votre crainte et non pour suivre ma passion que j'ai consenti à prendre un mari. Que votre nom, Dieu d'Israël, soit béni dans tous les siècles. » Et c'était juste après cette prière qu'elle a trouvé Tobie. Ensuite, il faut examiner avec objectivité ceux qui se présentent comme époux possibles. Bien sûr, il faut considérer ses attraits, ses goûts, mais combien y a-t-il de tristes mariages parce qu'on n'avait consulté que l'intérêt ou la passion? On ne considère pas si ce jeune homme a une conduite réglée, s'il fréquente les sacrements, ou s'il est libertin, vicieux, égoïste, joueur. Il est beau, il est riche, ça suffit. Ou on ne considère pas si cette jeune fille est modeste, travailleuse, sérieuse, ou si elle est vaniteuse, légère et menant une vie oiseuse. Elle est belle, ça suffit. Mais non. Une telle façon de juger un prétendant au mariage ne fait que préparer un avenir plein de discordes, de jalousie, de reproches, de mépris mutuels, et trop souvent le divorce et les adultères. En un mot donc, querite primum regnum Dei et justitia meus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Donc cherchez d'abord la piété et les vertus chrétiennes, mais sans oublier les vertus naturelles de travail, de prudence. Ayez soin encore que les caractères et les inclinations s'harmonisent. Puis, évitez autant que possible la disproportion entre les conditions sociales et l'éducation reçue. Alors, troisième condition, avoir une intention droite et pure. Quand le jeune Tobie prend Sarah pour sa femme, il lui dit « Nous sommes les enfants des saints. Nous ne pouvons pas nous unir comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Mais alors, quelle est l'intention qu'on doit avoir en se mariant? Quelle est la fin qu'on a en vue quand on se marie? C'est d'abord d'avoir des enfants et de les élever chrétiennement pour peupler le ciel. C'est le premier but du mariage. Mais c'est aussi s'entraider et se sanctifier mutuellement dans la paix et la crainte du Seigneur. Tel était le but du mariage de la très sainte Vierge Marie avec saint Joseph. Enfin, chercher un remède contre la faiblesse humaine, contre l'incontinence, qui est source de damnation pour tant de malheureux. Tout ceci est à rappeler aussi bien aux jeunes qui pensent à se marier qu'aux personnes déjà mariées et qui ont peut-être, avec le temps, perdu de vue ces vérités. Méditons ces belles paroles de l'ange au jeune Tobie avant son mariage avec Sarah. Écoute-moi, et je t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu de leur cœur et de leur pensée pour se livrer à leur passion, comme le cheval et le mulet qui n'ont pas d'intelligence. Sur ceux-là, le démon a pouvoir. Et enfin, quatrième condition, pour avoir Jésus présent à votre mariage, c'est être en état de grâce. Donc, le mariage étant un sacrement, il faut s'y préparer dignement et saintement. Recevoir le sacrement de mariage en état de péché serait un sacrilège, et ce serait attirer les malédictions de Dieu au lieu de ses bénédictions. Pratiquement parlant, il s'agit d'abord et surtout d'une conduite irréprochable pendant les fiançailles. Beaucoup pensent que certaines choses sont permises une fois qu'on est fiancé, mais ce n'est pas vrai. Les fiançailles ne donnent aucun droit particulier à changer la manière de se comporter l'un envers l'autre. Et si un des fiancés ne veut pas se plier à des règles de prudence nécessaires, on peut avoir des doutes très sérieux sur sa pureté d'intention et aussi sur sa capacité d'accomplir les obligations du mariage plus tard. Donc il faut bien veiller sur ses pensées et ne jamais se mettre dans des situations dangereuses. Dans les mois qui précèdent le mariage, une vie vraiment chrétienne est nécessaire. Donc, réception fréquente et fervente des sacrements, de la lecture spirituelle, de l'oraison. On peut profiter pour lire des livres sur le mariage et sur l'éducation des enfants. S'adonner à des bonnes œuvres, rendre service à des familles dans le besoin ou à la paroisse. Dans les semaines qui précèdent le mariage, malgré toutes les préparations matérielles et autres soucis qui généralement accaparent les esprits, on pourrait faire une bonne confession générale, voire passer quelques jours en récollection peu avant la cérémonie, si possible. Nous avons eu l'exemple édifiant d'un couple de fiancés qui a fait justement cela récemment ici. Pour la cérémonie elle-même, il faut y apporter une grande modestie. Que le repas qui suit se fasse dans un esprit chrétien, dans une atmosphère qui corresponde à la dignité du sacrement. C'est un moment pour se réjouir, c'est sûr, mais que cela se fasse avec décence, tempérance et honnêteté. Surtout dans le choix de la musique et des tenues. Que les époux se souviennent de la présence de Jésus qu'ils ont invité non seulement à l'église, mais aux réjouissances mêmes. Alors, pour conclure, on peut dire que si tous les mariages chrétiens se préparaient ainsi, une pluie de grâce et de bénédictions descendrait sur nos familles et sur la société dans laquelle nous vivons. Malheureusement, combien de mariages, même dans notre milieu dit traditionnaliste, sont préparés et accomplis de manière profane et mondaine. On prépare tout sauf l'âme. On pense à tout, on pense à tous les détails matériels, et on oublie souvent Dieu. Au lieu d'inviter Jésus et Marie, on fait venir Satan et les démons. On peut dire que toute leur vie, les époux et même leurs enfants ressentiront dans leur âme les suites de la manière dont se serait fait le mariage, en bien ou en mal. Donc, prions aujourd'hui pour toutes nos familles, pour que les parents et les grands-parents sache bien inculquer aux jeunes ces sages conseils de l'Église et pour que les jeunes aient le respect qu'il faut pour un si grand et si important sacrement et que Jésus et Marie soient les premiers invités au mariage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.